de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. La police nationale mènera l'opération Manta Berata pour sécuriser les élections de 2024. 75 tonnes d'aide d'Indonésie arrivent en Syrie. Le ministre de la Défense de la République d'Indonésie a assisté à l'invitation du président des Émirats Arabes Unis à l'IDEX Abu Dhabi. Le ministre indonésien de la Défense a discuté de la coopération en matière de défense avec les Émirats Arabes Unis. L'équipe INASAR met fin à ses tâches humanitaires dans la région d'Antakya. Les dirigeants des îles du Pacifique se réunissent pour montrer leur unité. Le gouvernement de la résidence de Toba a préparé un certain nombre d'activités pour animer le bateau à moteur F1 2023. Voici le journal complet. La police nationale indonésienne, Polri, organisera l'opération Manta Berata pour soutenir le bon déroulement de l'élection générale de 2024 et de ses étapes. Cela a été transmis par le chef de la division des relations publiques de la police nationale, l'inspecteur général de la police, Dedi Prasetyo, à Voice of Indonesia de RRI à Jakarta, jeudi 23 février. Dedi a déclaré que l'opération Manta Berata avait été organisée pour garantir que les étapes de l'élection générale se déroulent bien et démocratiquement. Il a également déclaré que la police nationale avait établi une communication avec les organisateurs des élections, à la fois la Commission électorale générale, KPU, ou l'organe de surveillance des élections, Bawaslu, ainsi que le gouvernement local pour travailler ensemble pour sécuriser le processus électoral de 2024.
Polri juga nanti akan menggelar operasi Mantap Berata.
La police nationale mènera l'opération Manta Berata qui est conforme aux étapes de l'élection d'octobre 2023 jusqu'à plus tard avant l'investiture du président élu. Pendant ce temps, pour sécuriser les élections de 2024 à l'étranger, selon Dedi, la police nationale a également communiqué avec le ministère des Affaires étrangères et les représentants indonésiens à l'étranger. Il a déclaré que le processus de sécurité serait effectué par l'intermédiaire de l'attaché de police de chaque représentant indonésien à l'étranger. Même ainsi, Dedi espère que la communauté participera également à aider la sécurisation des élections. Il espère que le public ne sera pas affecté facilement par la diffusion d'informations frauduleuses non confirmées visant à diviser l'unité et l'intégrité de la nation. L'aide du gouvernement indonésien aux victimes du séisme syrien est arrivée à l'aéroport international de Damas mercredi 22 février, heure locale. C'était la déclaration écrite du ministère de coordination du développement humain et de la culture de la République d'Indonésie jeudi. Deux avions ont transporté 75 tonnes d'aide sous forme de nourriture, de vêtements épais, de couvertures et de divers besoins hivernaux. La zone à la coordination du développement régional équitable et de la gestion des catastrophes du ministère de coordination du développement humain et de la culture, Sudirman, a remis l'aide qui a été symboliquement reçue par l'ambassadeur d'Indonésie à Damas, Wajid Fauz, et le représentant du gouvernement syrien, le vice-ministre de l'administration locale et de l'environnement, Moutaz Douadji. Une aide a également été fournie sous la forme $1 million en espèces et d'un soutien de la part de l'équipe de recherche et de sauvetage en milieu urbain, Moussar, et de l'équipe médicale de Kuzang, EMT, pour les victimes du tremblement de terre en Syrie. Le ministre indonésien de la Défense, Prabowo Subianto, a assisté à l'exposition et conférence internationale sur la défense, IDEX, au Centre national des expositions d'Abu Dhabi, ADNEC, à Abu Dhabi, avec une délégation indonésienne. Prabowo a assisté à l'exposition à l'invitation du président des Émirats Arabes Unis, EAU, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, à renforcer la coopération en matière de défense entre les deux pays. À cette occasion, Cheikh Mohammed était accompagné du premier ministre héritier de Bahreïn, HRA Salman bin Ahmad Al Khalifa, à l'Assemblée à Abu Dhabi jeudi. L'Indonésie a participé au salon IDEX à ADNEC Abu Dhabi du 21 au 25 février. La délégation indonésienne dirigée par le ministère indonésien de la Défense a emmené 12 industries de la Défense à l'exposition. Le ministre de la Défense de la République d'Indonésie, Prabowo Subianto, a discuté de la coopération, de la coordination dans les domaines de la défense et de l'armée avec les Émirats Arabes Unis, EAU, lors d'une visite de travail diplomatique à Abu Dhabi. C'était la déclaration écrite reçue par Antara jeudi. Cette visite a été effectuée par Prabowo afin de répondre à l'invitation du président Mohammed bin Zayed et de visiter les salons et conférences internationales de défense. Au cours de la visite, le ministre Prabowo a rencontré le vice-premier ministre des Émirats Arabes Unis, Mansour bin Zayed Al Nahyan. Ils ont discuté du renforcement de la coopération en matière de défense entre l'Indonésie et les Émirats Arabes Unis, qui se déroule bien jusqu'à présent. L'équipe indonésienne de recherche et de sauvetage, ou INASAR, a mis fin à sa mission humanitaire dans la région d'Antakya, province de Hatay, en Turquie, mercredi 22 février. Ils sont rentrés en Indonésie sur un vol Garuda Indonesia ce jeudi soir. Ceci est la déclaration écrite de l'Agence nationale de gestion des catastrophes, BNPB, publiée jeudi. Avant de quitter le poste d'exploitation à Hatay Expo, les personnels d'INASAR ont reçu la visite du ministre coordinateur du développement humain et de la culture, Muhajir Effendi, et du chef du BNPB, le lieutenant général de TNI, Suharyanto. Muhajir a exprimé sa gratitude pour le travail humanitaire d'INASAR lors de la catastrophe de tremblement de terre M7,8 en Turquie. Pendant sa tâche, depuis le 12 février 2023 à Antakya, l'équipe INASAR a réussi à évacuer 15 corps de victimes de tremblement de terre turc, dont des citoyens indonésiens retrouvés à Diyarbakir. Le temps de fonctionnement total des personnels a alternativement atteint plus de 100 heures. L'équipe INASAR de 50 personnes avec 3 chiens SAR a reçu l'appréciation et le remerciement du président turc Recep Tayyip Erdogan. Les dirigeants des nations du Pacifique sont arrivés à Fidji jeudi pour une réunion de 2 jours afin d'officialiser le retour de Kiribati à l'adhésion au bloc des 18 nations. Reuters a rapporté que la réunion discutera également des projets du Japon de déverser les eaux usées de la centrale nucléaire de Fukushima dans la mer, ce qui inquiète les pays du Pacifique car cela pourrait contaminer les poissons. Kiribati a qualifié le Forum des îles du Pacifique lors de sa dernière réunion en juin dernier, faisant craindre que la nation atoll avec de vastes zones de pêche à 3000 km au sud-ouest d'Hawaï sera isolée après avoir établi des relations diplomatiques avec Pékin. Le gouvernement de la région de Toba, au nord de Sumatra, prépare un certain nombre d'activités, à la fois de divertissement public et de micro, petites et moyennes entreprises, MPME, dans le but d'animer le bateau à moteur F1 du lac Toba 2023. Le chef par intérim du service de communication et d'informatique de Toba, Cess Mouan Boutar-Boutar, à Baligé, a déclaré jeudi que sa partie et les parties prenantes préparent 3 emplacements pour les activités de soutien au bateau à moteur F1 du lac Toba en 2023, à savoir le mini-terrain Sopo Surung, la plage Sibola Hotang et le rang de Dei Panjaitan. Dans ce lieu pouvant accueillir des milliers de visiteurs, il y aura des expositions de centaines de produits de micro, petites et moyennes entreprises, MPME, ainsi qu'un visionnement de l'événement ensemble. Ces auditeurs, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Bonjour à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de commentaires d'aujourd'hui avec moi Audrey. Le commentaire d'aujourd'hui parle de la communauté internationale condamne les attaques d'Israël en Cisjordanie. Sécuritaire Israël a lancé une autre attaque contre la région de Naplouse en Cisjordanie-Palestine mercredi dernier, 22 février. L'attaque de l'armée israélienne a tué plus de 10 Palestiniens, dont un adolescent et un homme de 72 ans. Selon le ministère palestinien de la Santé, l'attaque a également blessé plus de 100 Palestiniens. Les forces de défense israéliennes, FDI, sont entrées dans la vieille ville de Naplouse dans la matinée, provoquant des affrontements avec des groupes armés palestiniens. Selon Sahal, elle intensifie ses opérations après que ses troupes ont essuyé des tirs de groupes armés palestiniens. Les FDI ont alors tiré des missiles sur la cachette de la milice recherchée, provoquant l'effondrement d'une partie du bâtiment. Plusieurs sources du côté palestinien ont déclaré que deux commandants du djihad islamique avaient été tués dans l'attaque. La Hamas, une milice palestinienne qui s'est parfois associée au groupe du djihad islamique, a menacé de représailles depuis la bande de Gaza, le territoire qu'il contrôle. Abu Ubaïda, un porte-parole des forces armées du Hamas, a confirmé sur l'application Telegram que la patience de son parti était à bout pour exercer des représailles contre la partie israélienne. L'attaque mortière qu'Israël qualifie immédiatement reçut une réponse vigoureuse tant du peuple palestinien que de la communauté internationale. L'autre responsable palestinien Hussein al-Sheikh a dénoncé l'attaque comme un massacre et a appelé à la protection internationale du peuple palestinien. La Palestine a également demandé au Conseil de sécurité de l'ONU de tenir une session d'urgence sur les opérations des forces israéliennes à Naplus. Le ministre palestinien des Affaires étrangères, Iyad Maliki, a également demandé au Conseil de la Ligue arabe de se réunir au niveau des représentants permanents pour discuter des événements à Naplus. Une demande de rencontre a également été soumise à l'Organisation de la coopération islamique, OCI, pour condamner les actions d'Israël. Pendant ce temps, le porte-parole du département d'État américain, Ned Price, a exprimé l'inquiétude de Washington face à l'incident. Le chef de la politique étrangère de l'Union européenne, Josep Borrell, a déclaré que l'Union européenne est très préoccupée par la montée de la violence en Cisjordanie. Il a appelé toutes les parties à travailler pour établir la paix et éviter de nouvelles pertes de vie. La France a également fait des commentaires forts. Elle condamne les actes de violence commis contre les civils et réaffirme l'obligation d'Israël de respecter le droit international humanitaire en utilisant la force de manière proportionnée. En outre, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré que la situation dans les territoires palestiniens était très précaire depuis de nombreuses années. Selon lui, les tensions se sont intensifiées parce que le processus de paix est au point mort. Les deux parties auraient dû poursuivre le processus de paix tout en respectant et en appréciant les réalisations jusqu'à présent, y compris ce qui a été convenu dans les points de l'accord historique qui a été signé à la Maison-Blanche aux États-Unis le 13 septembre 1993. Bon, chers auditeurs, c'est tout, le commentaire.
Bonjour à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire aujourd'hui. Et on va commencer avec l'événement du 24 février 1920, le Parti nazi a été fondé. Le Parti travailliste national socialiste allemand, ou mieux connu sous le nom de Parti nazi, est un parti politique qui existait autrefois en Allemagne. Auparavant, il a été fondé en 1919, sous le nom de Parti des travailleurs allemands par Anton Drexler, un serrurier munichois. Hitler a ensuite rejoint le parti mineur en septembre 1919. Le parti a été fondé au début des années 1920 et a son siège à Munich. Auparavant, le parti s'appelait le Parti des travailleurs allemands. Le nom du parti a été changé le 24 février 1920. Après Adolf Hitler, après la direction du parti, l'emblème officiel des nazis était la croix gammée. Le 24 février 1955, l'anniversaire de Steve Jobs, fondateur d'Apple Computer. Il est né à San Francisco, en Californie, le 24 février 1955. C'est un magnat des affaires et inventeur américain, cofondateur, Presiden Ancien PDG d'Apple. Job a également été directeur général de Pixar Animation Studio. Il est devenu membre du conseil d'administration de Walt Disney Company en 2006, suite au rachat de Pixar par Disney. Son nom est répertorié en tant que producteur exécutif sur le film Toy Story en 1995. Le 24 février 1981, le palais de Buckingham, en Angleterre, a annoncé les fiançailles du prince Charles et Lady Diana. Le 24 février 1981, par l'intermédiaire du Lord Chancelier, le nouveau couple a annoncé officiellement les fiançailles du prince héritier du Royaume-Uni, le prince Charles. Comme cité par People.com, le contenu de l'annonce était « C'est avec grand plaisir que la reine et le duc d'Édimbourg annoncent les fiançailles de leur fille bien-aimée, Prince de Galles à Lady Diana Spencer, fille du comte Spencer et de l'honorable Madame Sinkit. » 5 mois plus tard, le 29 juillet 1981, le mariage de Prince Charles et de Lady Diana devant environ 3500 invités. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était belle la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Chers auditeurs, pour la rubrique suivante, voici donc Mon Indonésie, dont le titre est Le groupe Inka exporte batch 1 de 162 wagons de marchandises vers Nouvelle-Zélande. Inka Group, une société publique intégrée de transport ferroviaire et terrestre en Indonésie, a exporté 133 unités de wagons de type container à toit plat CFT vers Kiwirai en Nouvelle-Zélande. Cité par l'agence de presse Antara jeudi 23 février, le président directeur général d'Inka, société anonyme Persero Eko Purwanto à Madiun dans l'est de Java, a déclaré jeudi que les 133 unités de wagons de marchandises faisaient partie d'un projet visant à acquérir les 162 unités de wagons obtenues d'une société australienne, à savoir UGL, en janvier 2021. Des unités prototypes de ce projet ont été livrées à la mi-2022 et ont été achevées la phase de test dynamique par UGL et Kiwirai. Selon Eko, Inka Group a également obtenu un contrat de l'UGL pour l'acquisition de 450 wagons en septembre 2022 et un contrat pour 50 locomotives plateforme sous châssis en novembre 2021. Eko était fier de sa relation avec UGL qui a prouvé la capacité d'Inka à être compétitive sur la scène mondiale. Il espère que cette collaboration pourra être durable étant donné que les besoins y sont encore ouverts. Pendant ce temps, la directrice du programme d'approvisionnement en matière roulant Kiwirai, Christine Farago, a déclaré que les nouveaux wagons remplaceraient les anciens wagons dans le cadre du programme de modernisation opérationnelle de la flotte Kiwirai. Elle a également déclaré que lorsque les tests seront terminés, les nouveaux wagons seront immédiatement déployés et utilisés pour le transport de bois en tant que langue de service de Kiwirai pour l'industrie forestière en Nouvelle-Zélande. Kiwirai est une société d'État néo-zélandaise qui opère en tant qu'opérateur de transport ferroviaire. Kiwirai est également le plus grand opérateur de ferry en terril de Nouvelle-Zélande. En fournissant de 162 wagons de fret à la Nouvelle-Zélande, on espère que ce sera un grand pas pour que le groupe Inka reprenne un rôle sur le marché ferroviaire océanien. Chers auditeurs, c'était Mon Indonésie pour ce soir.
Bintang kecil di langit yang gelap, di mana dirimu tunjukkan rupamu. Bintang kecil di langit yang tinggi, jauh untuk ku sentuh, lihatlah diriku. Jangan kau pergi, kembali padaku, temani sepiku saat malam tiba. Jangan kau redup di telan sang surya, sirna cintamu kala pagi datang. Bintang kecil di malam yang gelap, sunyi sepi galau, ku rindu parasmu. Bintang kecil di malam yang dingin, hangatkan duniaku, ceriakan hatiku. Jangan kau pergi, kembali padaku, temani sepiku saat malam tiba. Jangan kau redup di talan sang surya, sirna cintamu kala pagi datang. Jangan kau pergi, kembali
ku, temani sepiku saat malam tiba. Jangan kau redup di telan sang surya, sirna cintamu kala pagi datang. Ho, akan hidupku. Oh, oh.
Bintang kecil di malam yang indah,
sinari terangi hangatkan hidupku.
Bintang kecil di malam yang indah, sinari terangi hangatkan hidupku.
Oh, oh, oh. Bintang kecil di malam yang indah, sinari terangi hangatkan hidupku.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant c'est le temps pour l'émission de magazine culturel. Et je vais vous présenter cette fois la plage à Krui. Chers auditeurs, située sur la côte sud de l'île de Sumatra, Lampung possède de nombreuses plages magnifiques. Vous voulez essayer d'aller dans la région de Krui. Il y a de nombreuses rangées de belles plages. Krui est la capitale du district de la côte ouest, Lampung. Pas seulement le pêchage est magnifique, mais les plages de Krui ont aussi de grosses vagues qui sont un paradis pour les surfeurs. Krui est accessible depuis l'aéroport M. Taufik Kemas, Lampung, puis procéder par voie terrestre pendant environ 6 à 7 heures. Vous n'avez pas besoin de payer un billet d'entrée pour les plages de Krui. Vous n'avez qu'à payer le ticket de stationnement du véhicule. Sur Krui a de belles plaines côtières. Il y a la place de Labuhan Jukung Krui. Et ici, il existe de nombreuses activités touristiques passionnantes, y compris regarder le magnifique coucher de soleil, surfer, faire des visites culinaires de plats typiques de la côte ouest. Cette plage a une grande étendue de sable. Le sable est également doux, avec une couleur blanche propre. Ensuite, il y a la place de Karang Nimbor ou la plage d'Ujung Bochur. Comme la plage de Labuan Jukung Krui, cette plage a également des vagues assez hautes qui avoisinent les 5 à 6 mètres. Si vous arrivez au bon moment, vous pourrez peut-être essayer la vague avec le personnage du pipeline. Ces vagues apparaissent occasionnellement et sont un lieu de prédilection pour les surfeurs. Sur Jeter, à Krui, il y a aussi la Shot Beach, qui a du sable noir. En plus d'être un lieu touristique, cette plage est aussi un petit port pour se rendre à Banana Island. En visitant cette plage, vous verrez des roches dispersées de différentes tailles. Il y a l'île de Mandiri Beach qui est un paradis pour les surfeurs avec du sable noir. Une autre plage qui fait également partie de la ligne de la plage de Krui est la plage Walour. Vous y trouverez des prairies parsemées de cocotiers. L'étendue de sable blanc ici est également douce et parfaite pour se détendre en regardant le coucher du soleil. En plus du surf, vous pouvez pêcher et nager. Bon, chers auditeurs, c'est tout. Le magazine culturel. Serge Ritter, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de l'Indonésie en couleur, intitulée 18 marques de mode locale se produisent au NYIFW 2023. Vous êtes avec moi Audrey. Sur jeudi tard, la New York Indonesian Fashion Week NYIFW a de nouveau lieu le 11 février 2023 en collaborant avec 18 marques de mode indonésiennes et une marque locale américaine. Contrairement à la mise en œuvre précédente, YIFW 2023 se tiendra sur un bateau de croisière. La productrice de la NYIWF, Fanny Tosignan, a déclaré que le plus grand défi auquel elle était confrontée était de gérer la scène. Dans l'émission officielle, c'est la première fois qu'un défi de mode est organisé pendant la Fashion Week de New York sur un bateau de croisière. L'équipe doit donc être en mesure d'exécuter des modèles d'essayage, de maquillage, de coiffure, de répétition et de défilé en seulement 4 heures. Cette activité a impliqué 18 marques de mode d'Indonésie et une marque locale d'Amérique. Il y avait 69 modèles féminins et 6 masculins. Fanny a également déclaré que les designers indonésiens étaient très enthousiastes à l'idée de participer au spectacle sur ce bateau de croisière. Le navire est très grand, dispose de 4 étages spacieux avec différentes fonctions. Outre les défilés de mode, les créateurs ont également visité le port de New York pendant 4 heures. Cette activité est en collaboration avec l'Indonésie Fashion and Art Festival, IFAF. L'attention du gouvernement local a nommé des designers locaux pour se montrer sur la scène internationale s'est accrue avec la présence du chef de district de Bombana et du chef de district de Central Bhutan de Sulawesi. Entrant dans sa 12e saison, NYIFW porte le même thème, à savoir la mode et les arts internationaux. Fanny a déclaré que les designers espéraient avoir un marché en Amérique et que leur marque serait plus appréciée, tant au pays qu'à l'étranger. Pour le marketing, la New York Indonesian Fashion Week collabore également avec les boutiques ou des galeries américaines, dont la Dia Gallery à Wilmington, Delaware, pour commercialiser le travail du créateur après le défilé de mode. Bon, chers auditeurs, c'est tout. L'Indonésie en couleur.
Kata mereka. melepaskan diri dari regam beban. Setelah ku lalui hari yang melelahkan, senyum senyam, kilau bintang menyapa dalam kebersamaan. Waktunya bagiku untuk beraksi, chemistry alami bereaksi, sinkronisasi frekuensi. What we need right now is a party.
Jangan peduli semua apa kata mereka, salah kita semua.
Rasa kecewa sambut hangat cinta yang ada. kasih, jangan kau ragu untuk melangkah.
Chers amis, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Sans retard, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour le magazine musical. Et cette fois, nous vous présentons une chanson de Java occidentale, intitulée Peuyeum Bandung. Chers amis, cette chanson parle d'un aliment typique de Bandung appelé Peuyeum Bandung, qui est fabriqué à partir de manioc fermenté. Bon, chers auditeurs, voici Angga Prawira va chanter une chanson intitulée Peuyeum Bandung. Bonne écoute.
Thank you. mana-mana di kampung di kota. Toska koncara ku ni matrasa. Sana kedireka-reka naon namina umata kapita peyemban kamasur pangaos na telukur kusa.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @voixindonesia, d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voix Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.